Aujourd'hui, on parle cinéma documentaire. Lorsque les vivants deviennent sourds, faut-il se taire ? Y a-t-il un sens à parler dans le désert du silence des autres ? Ce sont les mots de Christophe de Pomphilly. Christophe de Pomphilly, dont le nom souligne chaque année depuis 14 ans, l'intitulé du festival Écho d'ici, Écho d'ailleurs à la Bastille de Rouérou, dans le sud du Tarn. Et ces mots résonnent d'autant plus dans l'actualité récente. On est en ligne avec Marie Bernard, directrice artistique du festival, pour nous parler de l'édition 2021 d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, festival de films documentaires qui aura lieu ces 8, 9 et 10 octobre à la Bastille de Rouérou. Bonjour Marie.
Bonjour Will.
Alors comment ça va Marie ?
Eh ben ça va, K1K, hein, avec cette période un peu compliquée, mais on est plein d'élan et d'énergie pour cette nouvelle édition, vu que l'an dernier on n'a pas pu faire une édition véritable du festival.
Alors, je le disais en introduction, en citant Christophe de Pomphilly, quelle étrange époque que nous vivons. Marie, est-ce que tu peux nous rappeler le lien du festival à Christophe et au passage, qui il est pour celles et ceux qui n'ont pas nos âges?
Alors, Christophe de Pomphilly était un grand, je dis était puisqu'il n'est plus de ce monde depuis 2006, était un réalisateur, journaliste et aussi écrivain, qui a beaucoup œuvré pour l'Afghanistan. Donc, il est parti en Afghanistan un certain nombre de fois pour parler de Massoud et de la résistance afghane. Il a été un des premiers dans les années 80, quand l'Afghanistan s'est fait envahir par la Russie. Et après, donc, dans les années 90-2000, par rapport à l'introduction des talibans et voilà, et Massoud a été malheureusement tué le 9 septembre avant les attentats du 11 par deux journalistes et une caméra piégée, donc ce qui est un peu dingue par rapport à l'histoire de Christophe qui disait que en fait une caméra valait mieux que des fusils, donc c'est un peu fou. Voilà, Christophe rappelle avec cette actualité, rappelle comme il avait raison. Il a fait pendant toute sa vie, il a œuvré sur l'Afghanistan en disant que si on ne faisait rien, l'extrémisme arriverait. Et voilà, bon, en fait, c'est malheureusement, tout ce qu'il avait essayé de faire, la vérité est là, quoi. Il avait malheureusement raison et que Massoud est mort. Les talibans sont de nouveau à Kaboul et que le fils de Massoud essaye de faire une résistance, mais qui n'a aucun soutien de l'Europe et il n'a aucun allié. Donc là, pour le moment, c'est un peu compliqué, je crois.
On lui doit justement à Christophe de Pomphilly pas mal de reportages, de documentaires et d'écrits aussi, des livres autour de la figure de Massoud.
Oui, voilà. Oui. Alors, en fait, Christophe a réalisé une cinquantaine de documentaires, dont une dizaine ou une quinzaine, je ne sais pas exactement le nombre, sur l'Afghanistan. Et ce qu'il a fait vraiment connaître, malheureusement, c'est la mort de Massoud avec son film Massoud l'Afghan, qui passe et repasse sans arrêt maintenant sur les chaînes dès qu'il y a un événement en Afghanistan. Et ce film était un film pour porter à la base l'histoire de Massoud et de sa résistance, hein, voilà. Massoud, le lion du Panchir, on l'appelait. Bon, et Christophe n'a pas fait que des films sur l'Afghanistan, bien au contraire, il a toute une série de films sur les gens comme toi, comme nous, des profs, des instits, des gens lambda, et c'est toujours des magnifiques personnages, voilà.
Une vie, une œuvre, Christophe de Pomphilly, 1951 Paris, 2006, Rambouillet.
France Culture, 16 décembre 2017.
Dans la famille, les enfants vivent entre Raymond Péan de Pomphilly, un père polytechnicien, et Anne Jiquel, une mère, dans la haute couture. En 1981, alors qu'il dirige une collection chez Robert Laffont, Christophe de Pontfilly rencontre avec Jérôme Bonny des réfugiés. Il écrit alors « Nous avions peur, mais l'envie de rapporter des images de la vie des Afghans, prisonniers de ce drame, nous sembla soudain vitale. Nos caméras Super 8 serviraient à explorer une tragédie qui se développait dans un univers majestueux dont nous avions rêvé. Elle deviendrait une arme contre la barbarie. » C'est le début d'une période dominée par l'ombre de celui qu'il allait admirer passionnément, le commandant Massoud. Il y aura aussi les Papous, UVA, le monde communiste ou le juge Thiel. Quand il abandonne la vie, en 2006, dans la forêt de Rambouillet, il laisse des reportages et des documentaires, un film de fiction, L'étoile du soldat, ainsi que de nombreux ouvrages. Arnaud Contreras signe, avec Yvon Croisier, Une vie, une œuvre, Christophe de Pontfilly.
Alors voilà ce que j'écrivais sur Christophe en 2011, donc quelques années après sa mort. Alors j'écrivais ceci. Christophe était un blessé de la vie, en révolte constante contre toutes les infamies du monde. Pour exister sereinement, il lui aurait fallu une planète idéale et il la cherchait partout en vain, sur les 5 continents et dans toutes les sociétés. Sa caméra était sa lance de Don Quichotte contre les moulins à vent de l'injustice et du malheur. Comme homme de télévision, il ne ressemblait à aucun de ses confrères, ni par les motivations, ni par la manière de travailler. Il prenait le temps nécessaire à tout. C'était sa plus grande richesse, le luxe qu'il s'octroyait dans un univers où la pression du temps devenait progressivement une tyrannie contre laquelle peu résistait. Comme nous tous, il refusait d'appartenir au système, se tenant juste en lisière, et comme nous tous, il payait le prix de cette indépendance. Dans les dernières années, fatigué de tout, il me disait souvent avec un soupir désespéré « Patrice, j'ai envie d'une grande aventure, n'importe quoi. » Alors, nous cherchions quelque chose qui vaille la peine de vivre, mais nous trouvions si peu de choses dans les miettes que nous laissait le monde d'aujourd'hui que, quoi que nous fassions, lui ne pouvait s'en satisfaire. Quand il a décidé de mettre fin à ses jours en 2006, je lui en ai voulu un temps, parce que nous avions encore des projets communs, et parce que nous n'étions pas si nombreux dans notre clan à partager la même vision du monde, les mêmes combats, le même goût pour l'amitié véritable et la même certitude que l'aventure est l'une des dernières manifestations de la vie libre et intense dans la modernité que la société nous impose. Il n'aurait pas dû nous laisser seuls. Voilà ce que j'écrivais sur lui il y a quelques années.
En tout cas, du coup, Christophe, il vous a passé à quelques-uns à la Bastide Vrairou le goût du documentaire et le goût de la discussion autour du documentaire. Là, on est sur la 14e édition du festival Écho d'ici, Écho d'ailleurs. On est le vendredi et on diffuse cette interview le lundi. Mais il y a déjà aussi des choses qui se passent hors les murs. On renvoie les auditeurs sur notre agenda pour voir ce qui se passe hors les murs en dehors de la Bastide. Mais du coup, c'est 8, 9 et 10 octobre. Le thème, c'est quoi ce travail? Alors, comment vous déclinez cette thématique sur les 3 jours de projection de cette année?
Alors, cette thématique, on l'a reprise de l'an dernier, hein, puisqu'on avait fait une mini édition en passant que 4 fils pour maintenir le week-end pour les gens d'ici. Là, on y va plein pot avec une trentaine de films. Et on a la grande joie d'accueillir Gérard Mordillat, qui a quand même fait pas mal de films sur le travail, sur les patrons, entre autres, donc avec La voix de son maître. Et Gérard Mordillat va être parmi nous pendant tout le week-end. On lui fait un chapeau bas et on ouvrira le festival, une fois n'est pas coutume, avec un film de fiction donc qu'il a réalisé, qui s'appelle « Mélancolie ouvrière ». Avec Virginie Ledoyen. Alors pourquoi un film de fiction? Parce que ce film-là particulièrement rappelle l'histoire de la vallée du Toré autour du textile et des luttes qu'on a pu vivre sur la Bastide. Ça fait vraiment un parallèle avec l'histoire locale. C'est pour ça que on a choisi ce film « Mélancolie ouvrière » en ouverture de Gérard Mordillat. Après, Gérard va nous accompagner pour l'Agora, donc sur sur c'est quoi ce travail, un temps un peu privilégié où on ne passe pas de film pendant une heure, on essaye de développer le thème avec, là on sera aussi en compagnie de Sandro de Gasparo qui est un chercheur, qui est ergonome et qui travaille, qui fait des recherches sur l'analyse du travail, les mutations de l'industrie et du service. Donc ça va être super intéressant et je pense qu'on va quand même axer cette agora sur ce qui nous arrive aujourd'hui avec la crise sanitaire et ce que ça implique dans nos contraintes, dans le travail que nous faisons. Nous, en tant que structure culturelle, mais aussi, bien sûr, tous les gens dans d'autres professions qui sont vraiment impactés par cette crise. Et Gérard Mordillat, on le retrouvera aussi le dimanche, donc avec une séance un peu inédite autour de son œuvre, hein, parce que Gérard Mordillat, c'est aussi un écrivain, un poète, en dehors du cinéma. Et là, c'est une séance un peu spéciale qui est organisée par le directeur d'Occitanie Film, qui s'appelle Karim Giatti. Une petite rencontre d'une heure. Et à la suite de ça, on passera un film, La voix de son maître, donc qui est un film qui date de 78 et où ce sont des portraits de patrons qu'il avait co-réalisé avec Nicolas Philibert. C'est un magnifique film sur le patron. Voilà. Après, bien sûr, on a plein de choses super belles et intéressantes. La carte blanche de la Cinémathèque de Toulouse, bien sûr, avec les Morutiers. Appalante, qui est un film de ciné du collectif Ciné-Lutte. On a la joie aussi d'accueillir une réalisatrice, Eve Duchemin, qui vient de Belgique et dont je suis le travail depuis plusieurs années, donc que j'adore, des très très beaux portraits. L'un sur la jeunesse actuelle, l'âge adulte, sur le portrait d'une jeune à 20 ans qui se débat entre gagner sa vie, et un portrait aussi un peu atypique d'une directrice d'usine.
Vous dites qu'on n'a pas la preuve que ça vous appartient. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que ça a été découvert dans votre cellule, monsieur, oui ou non?
Mais dans la cellule m'appartient, la cellule, madame.
Est-ce que, monsieur, je vous demande de répondre là pour le coup à mes questions. Si vous ne voulez pas répondre du tout, on s'arrête. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait, monsieur, que ça a été trouvé dans votre cellule?
Apparemment, ça a été trouvé dans ma cellule.
Apparemment, ça veut dire que vous n'en êtes pas sûr.
Ce qui est compliqué, c'est que dedans, on est déjà caricaturé entre les détenus qui vous perçoivent comme une salope et les agents qui sont persuadés que vous n'en avez rien à foutre. Ça, c'est déjà difficile en soi. Mais quand, en plus, en dehors, on a l'impression, une fois de plus, d'être caricaturé. Moi, j'ai pas la force ni l'énergie de me battre contre ça. Enfin, c'est pas grave.
Chez moi, je ferme jamais les portes, par exemple. Ça m'a rendu un peu claustro. Je laisse les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes. Il y a des fois, on a l'impression de remplir des tonneaux percés. Il y a des fois, l'essentiel, c'est que d'y trouver du sens. Et parfois, le sens, on a l'impression que... Puis parfois, on a l'impression qu'on fait mal. Ça happe tellement entièrement que, j'ai quand même la chance d'avoir un métier qui me passionne et qui me prend beaucoup d'énergie, mais je pense que ça va avec. As if it's hell down here in a smoke-filled world where the jokes are cold, they don't laugh at jokes, they laugh at tragedies.
Corner street societies. Que dire encore, on a une avant-première, ce qui est quand même toujours sympathique. En fait, on en a plusieurs, hein. Il y en a, mais elles sont les deux qu'on a. On va ouvrir une avant-première en avant-première avec Les mains dans la terre le 2 octobre. à la Bastide Rohirou. On va passer le 30 hors les murs Debout les femmes de François Ruffin, mais sur le festival lui-même, donc le samedi soir, on accueillera un jeune réalisateur qui s'appelle Brice Gravel, qui a fait un portrait un peu unique des idées de génie sur le directeur, en fait le patron de Jiffy et de Kiabi, donc un portrait un petit peu extrêmement dérangeant et dont on attend vraiment beaucoup de réactions du public. Et quoi dire d'autre sur tout ça? Les films sont merveilleux. Et on a deux rendez-vous un petit peu le matin. Maintenant, on organise le matin une rencontre un peu spéciale, avec des projections, bien sûr, mais c'est toujours des rencontres un peu privilégiées. Donc, le samedi, on rencontrera Olivia Gay, qu'on a accueillie en résidence, qui est photographe, qu'on a accueillie en résidence au mois de juin cette année, et qui va d'ailleurs exposer au festival son travail, qui s'appelle À domicile. Elle a suivi un groupe d'infirmières en milieu rural de la Bastide Rohirou. Et là, on va parler de son métier, donc le travail, la photographie, est-ce un album de famille? Et le dimanche, on va accueillir aussi, j'aime bien en fait le cinéma belge, et j'aime beaucoup le travail du centre de le CVB, le centre vidéo de Bruxelles, donc avec son directeur qui viendra en fait commenter une heure d'extrait de films sur qu'ils ont produit sur le travail, donc, et une nouvelle aussi plateforme numérique transmédia, donc qui s'appelle nosfutures.net, qui a été créée dans le temps du confinement en 2020.
Et on peut retrouver tout ce programme sur le site www.ecodudoc.fr. L'équipe du festival est bien entourée chaque année de bénévoles. Est-ce que tu peux nous rappeler les besoins en bénévoles que génère Eco d'ici, Eco d'ailleurs, et pour draguer un peu les envies, ce qu'il peut y avoir d'intéressant à être bénévole dans un festival de films documentaires?
Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut voir des films et puis assister au débat. Alors, cette année, on a un partenariat particulier aussi avec Tank, qui est une plateforme de visionnement de documentaires en ligne, qui est assez connue maintenant, et qui offre à tous les bénévoles d'Ecosy et Ecola un mois d'abonnement gratuit. Après, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a moult tâches. On peut faire l'entrée des salles, la buvette, la cuisine avec notre chef cuisinier Olivier qui nous fait vraiment des super petits plats. Des projections dans la salle des gratuits, la billetterie, tout ce qu'on peut faire dans un festival de films documentaires. Et après, quant aux avantages, je pense qu'ils sont déjà basés sur la convivialité et la richesse de nos échanges. Voilà, on est nourri, on peut être logé et on peut regarder des films. Voilà.
Et découvrir la vallée aussi, au passage.
Et découvrir la vallée, et puis effectivement, on peut aussi découvrir le musée du textile qui est ouvert le week-end du festival et dont l'accès est gratuit, où on passe aussi, où on va accueillir une exposition aussi de photographie de Laura Lafont qui est venue en résidence photographique en 2019. C'est quand même assez riche pour un bénévole qui viendrait découvrir le festival. festival pour la première fois.
Alors, sur le site du festival, donc je rappelle, c'est www.ecodudoc.fr, il y a une note forcément spéciale pour, par rapport aux autres années. Je la cite, « Résister sans annuler, appliquer sans soutenir, voilà la quadrature du cercle. C'est le défi de cette 14e édition. Nous comptons sur vous pour y parvenir, dans le respect de chacun, la convivialité et la bienveillance qui caractérisent notre festival. » Alors justement, cette quadrature du cercle, comment vous avez pu trancher un petit peu sur comment vous allez accueillir les gens et dans quelles conditions ?
On va les accueillir comme la règle nous oblige, hein. Voilà, on a notre petit conseil d'administration s'est bien pris la tête à savoir comment on pouvait faire ou ne pas faire. Donc la question c'était est-ce qu'on faisait ou est-ce qu'on ne faisait pas du tout, puisqu'on n'a pas le choix de faire autrement. Voilà, donc du coup, on va appliquer la règle qui, j'espère, en croisant bien fort les doigts, d'ici le festival va disparaître. Ça serait trop magique, donc voilà, de pouvoir faire un festival sans l'obligation du pass sanitaire. Donc ça nous soulagerait beaucoup. Voilà. Après, on est tenu par la règle qui est celle pour tous à partir du moment où on utilise des bâtiments municipaux pour faire nos manifestations.
Bâtiments municipaux et on parle du cinéma aussi. Donc il y a combien de salles justement pour accueillir les projections ?
Alors en fait, pour les projections, on a 3 salles, on va dire. On a un chapiteau qu'on monte pour l'occasion, le cinéma de la Bastide Rouérou et une salle en fait dans la maison qu'on occupe où il y a nos bureaux, qui est une maison associative et dans laquelle on installe une petite salle pour les films, pour les grands et les petits qui sont en accès gratuit. On passe une série de courts-métrages pour adultes et enfants. Voilà. Le samedi et le dimanche, à 14h pour les adultes et à 16h pour les enfants. Voilà, donc c'est trois lieux de projection, plus on occupe la salle des fêtes, donc qui est un grand bâtiment où les installations diverses et variées, exposition de photographie, installation d'un plasticien, Guillaume Songès, qui va nous faire une grande installation en bois et en mécanique. Il y a du son, voilà, des artistes divers. Puisque notre festival, depuis sa création, en fait, aime bien croiser les arts pour la découverte de tous, donc du théâtre, des chansons, et puisque les comédiens sont toujours sur notre festival, et après du son, des photographies bien sûr, mais aussi des artistes peintres, voilà.
Super programme donc à retrouver en détail sur www.ecodudoc.fr, notamment pour réserver des séances ou en tout cas voir pour les horaires, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont se chevaucher, donc il faudra faire des choix. Merci beaucoup Marie-Bernard, on a tout dit ?
On a tout dit je crois, enfin il reste tant de choses à dire, mais bon, oui. Je pense que nous avons dit le principal.
Donc rendez-vous les 8, 9 et 10 octobre à la Bastide Rouérou dans le sud du Tarn. Merci beaucoup encore Marie-Bernard, on fait un coucou à toute l'équipe du festival et on vous souhaite une bonne 14e édition.
Merci beaucoup Will et on espère vous voir.
On va essayer.
À bientôt.
À bientôt. Merci à Marie-Bernard, merci à Arnaud Contreras. Retrouvez toutes les infos sur le Festival du film documentaire de la Bastide Rouérou sur le site www.ecodudoc.fr. À l'issiat.